France Inter.
Ce matin, poursuite de notre voyage chez les crooners du rock. Aujourd'hui, je vous emmène dans des zones un peu sombres et vous entendrez des voix ténébreuses et tourmentées. Certaines, je crois que vous les reconnaîtrez facilement. D'autres, vous aurez peut-être envie de les connaître davantage.
From the back of the room, I hear a voice cry out, you want something good? Well, come on a little closer, let me see your face. Yeah, come on a little closer by the front of the stage. I say, come on a little closer, I got something to say. Yeah, come on a little closer, I wanna see your face. You see, I met a devil named Buena Buena. And since I met the devil, I've been the same, oh no. And I feel alright now, I have to tell ya. I think it's time for me to finally introduce you to the Buena 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 Buena.
Buena, c'était le groupe américain Morphine en 1993 et la voix très blues, si prenante de Mark Sandman. Morphine, ça a été un des groupes les plus singuliers du rock indépendant de cette période. Alors certains entendent Morphine et se disent sûrement un nom choisi par provocation en pleine période grunge par une bande de dégénérés fiers de l'être. Eh bien en fait non, pas du tout. Ce trio avait choisi le nom de Morphine en référence à Morphée, hein, le dieu grec du sommeil et des rêves. Enfin en tout cas c'est ce qu'il racontait. Sandman, c'était un grand type émacié, au visage allongé, au physique un peu à la Jim Jarmusch, hein, pour ceux qui voient. Et il jouait, imaginez, sur une guitare basse à deux cordes, et il l'attaquait en slide, c'est-à-dire avec un tube de métal fixé sur le petit doigt, qui faisait glisser sur ces deux cordes qu'il avait accordées à l'unisson. Et au fond, c'était, à une toute autre époque, un retour à l'esprit du blues rural, hein, au temps où les pionniers bricolaient leurs instruments, par exemple, je sais pas, avec une boîte à cigares, un manche à balai et une corde à linge. Le son de Morphine, c'était cette basse rudimentaire mais admirablement jouée, un saxophone baryton, vous l'avez entendu, très jazzy, une batterie et c'est tout, pas de guitare. Et je peux vous dire qu'avec un dispositif aussi réduit, pour tenir une scène, il fallait avoir un sacré charisme et une espèce de force intérieure. Eh bien, Mark Sandman, il avait les deux. En me renseignant sur lui, d'ailleurs, j'ai appris qu'il a mené, au fond, une de ces vies dont on fait des films. Il avait grandi dans une banlieue de Boston, au sein d'une famille juive. Ses deux frères étaient morts jeunes. L'un à la suite d'une infirmité motrice cérébrale et l'autre avait chuté d'une fenêtre. Brillant, Marc avait obtenu un diplôme de sciences politiques, mais j'ignore si c'était par nécessité ou par choix, il avait choisi de vivre de petits boulots. Il avait notamment travaillé sur un grand bateau de pêche. Après quoi, Marc Sandman était devenu chauffeur de taxi à Boston. Un soir, l'horreur, il tombe sur un client qui lui dérobe sa recette et le poignarde à la poitrine. Alors dans ce parcours si peu ordinaire, il s'était mis à la musique sur le tard à 30 ans passés. Il s'était d'abord rodé dans divers groupes entre musique expérimentale, blues et free jazz, si bien que quand il avait commencé à connaître un certain succès au sein de Morphine, il avait déjà 40 ans, d'ailleurs ça le complexait, et dans les interviews à l'époque, il refusait de dire son âge. Hélas, sa trajectoire, après comme ça je crois il y a 4-5 albums, sa trajectoire a été interrompue brusquement en 1999, en plein concert, un été où régnait une température caniculaire, c'était en Italie, lors d'un festival près de Rome, et Marc Sandman a été foudroyé par une crise cardiaque et il est mort sur le coup. C'était un type étonnant, ce Sandman, à la fois très sarcastique et très viscéral. J'ai un souvenir très précis d'avoir vu Morphine sur scène et je peux vous dire que c'était quelque chose d'indescriptible. Aujourd'hui d'ailleurs, des artistes aussi divers que Ben Harper ou Josh Homme du groupe Queens of the Stone Age célèbrent son souvenir, celui d'une voix aussi sincère qu'intelligente, une force intérieure, un son aussi actuel aujourd'hui qu'il y a une vingtaine d'années. Je peux vous dire que c'est rare. Summer's almost gone. Summer's almost gone. Almost gone. Yeah, it's almost gone. Where will we be when the summer's gone? See you. La voix d'Iggy Pop dans une ballade aussi glaçante que grinçante, Nazi Girlfriend, copine nazie, extrait de son album de 1999, Plan B. Un enregistrement tout à fait à part dans son parcours, sans doute le plus puissant, sincère en tout cas, de sa carrière tardive. Certains y ont vu et entendu une allusion transparente à la chanteuse Nico. Son regard est un désert, son français est parfait, son cul aussi, pardonnez-moi, je cite Iggy. On peut y décerner aussi un autoportrait un peu grinçant du punk vieillissant, plus de 50 ans déjà à l'époque. Il faut se rappeler que dans sa jeunesse lointaine, il avait joué par provocation nihiliste avec les symboles nazis et les croix gammées. C'était le cas d'ailleurs des frères Asherton, deux mauvais garçons avec qui il avait créé dans la banlieue de Detroit les Stooges, son premier groupe. Alors quand il parle de cette copine nazie qui baise sur le sol, pardon, encore une fois, c'est le vocabulaire d'Iggy, pas le mien, surtout n'imaginez pas ça, qui n'est plus la bombe qu'elle avait été jadis, qui est élégante mais dont la jeunesse est perdue, eh bien, j'ai du mal à m'empêcher de penser qu'il parle aussi de lui-même avec un sourire en coin. Voilà. Juste avant, Summer's Almost Gone, l'été est presque fini, heureusement c'est loin d'être le cas, on a encore un mois et demi, hein, je vous rassure, c'était la voix de celui qui est sans doute le crooner le plus célèbre de l'histoire du rock, Jim Morrison, avec les Doors, en 68, dans l'album Waiting for the Sun. Jim Morrison avait plus d'un point commun avec Iggy Pop, hein, hormis d'avoir partagé la même fiancée, Nico, puisque vers 69, enfin oui, vers 69-70, Iggy n'avait c'était pas pareil. Il avait une réputation underground sulfureuse, mais Jim Morrison, lui, était une superstar. Il avait déjà eu plusieurs tubes avec les Doors. Et il était le modèle d'Iggy, son rival aussi, qui ambitionnait lui aussi de transformer un concert de rock en une sorte de cérémonie chamanique, ou en théâtre de la cruauté, pour reprendre la formule d'Antonin Artaud, en tout cas un spectacle où rien n'était simulé et tout pouvait arriver. Beaucoup d'entre vous connaissent, j'imagine, cette fameuse photo d'Iggy, qui le montre marchant sur les mains tendues par ses admirateurs, le torse nu enduit de beurre de cacahuète, hein, j'invente absolument rien. Elle a été prise en 70 lors d'un festival à Cincinnati dans l'Ohio. Et à ce sujet, voici le commentaire qu'Iggy Pop en fera une vingtaine d'années plus tard. « Je voulais devenir le roi du sexe. On nous a d'ailleurs donné à Jim Morrison et à moi les mêmes surnoms, l'iguane ou le lézard. » Et tiens, allez, voilà un autre animal plus récent et plus rare. Assez énervé dans son genre. Anything you want, anything the world has to offer, I can give you if you just reach out to me, take my hand. Everything a kiss cannot bring, I will give you if you just say you will. And it's freedom in my home, and it's freedom in my arms, in my arms, in my arms, in my arms. Yeah!
Very Good Trip, Mishka Assayas.
Mother of Earth, la belle voix de baryton de Jeffrey Lee Pierce en 1982 avec son groupe le Gun Club. Un chanteur qui nous a quittés il y a près de 20 ans déjà. Et s'il avait arrêté la drogue et l'alcool à temps, comme Nick Cave, il occuperait peut-être aujourd'hui la même place que lui. En tout cas, lui et son groupe ont été dans les années 80 les gardiens de la flamme d'un certain esprit beatnik, c'est-à-dire vagabond et poétique, mais aussi clairement autodestructeur. Sorte de chaînon manquant entre Jim Morrison et Kurt Cobain, Pierce est mort à l'âge de 37 ans, des suites de ses excès. Alors, il était texan d'origine, mais il avait grandi dans les quartiers hispaniques de Los Angeles. À l'âge où la plupart d'entre nous préparaient leur bac, eh bien lui, il était parti seul sur les routes. Il était allé à New York, à Miami, il avait voyagé dans le golfe du Mexique, en Jamaïque et au Salvador notamment. Alors, il avait du sang mexicain, français et indien par sa mère. En tant qu'artiste, il avait puisé son inspiration dans la poésie, bien sûr, mais musicalement, il prenait ses racines dans le punk rock. Cela dit, très vite, il avait accompli une sorte de voyage initiatique en arrière, à la fois vers le premier cri du blues, mais aussi vers l'hystérie des prêcheurs puritains et aussi les cérémonies vaudou auxquelles il avait assisté à Miami, où il y a une importante communauté haïtienne. Alors, cette quête d'une sauvagerie primitive a eu, chez nous, en France, une forte influence sur tout un courant du rock indépendant des années 90, en particulier, bien sûr, sur le groupe Noir Désir, qui avait ouvertement pris Jeffrey Lee Pierce et le Gun Club. Club pour modèle. Cela dit, il y avait chez Pierce une certaine forme d'humour noir, un chant doux, sensuel et vulnérable aussi, comme dans cette chanson qu'on a entendue, Mother of Earth, extrait d'un album de 1982 qui s'appelait Miami. Juste avant, une voix qu'on entend, je pense, rarement en France, et c'est dommage, c'est celle du chanteur Glenn Danzig, dans un titre de 1992, Anything, extrait du troisième album de son groupe, intitulé How the Gods Kill. C'est un musicien de la région de New York, il est plutôt jeune, hein, il vient d'avoir 60 ans, et un type très étrange, ce Glenn Danzig, passionné de BD d'horreur, mais aussi d'occultisme, et ce, paraît-il, depuis son enfance, puisqu'il prétend d'ailleurs avoir commencé à tester l'alcool et les drogues à l'âge de 11 ans. Il a d'abord créé un groupe dès 1977, un groupe inspiré par les Ramones, qui s'appelait les Misfits, mais dans un style beaucoup moins humoristique, un style gore, hein, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire macabre et sanguinolent, un style qui était appelé à avoir une certaine influence sur des groupes de hard rock et metal grand public, comme Guns N' Roses et Metallica. Et puis, au milieu des années 80, Danzig a pris un virage. Il s'est orienté vers une espèce de hard rock gothique, si bien qu'on a parfois l'impression d'entendre une sorte de, je sais pas, de Jim Morrison déguisé en Dracula, au timbre tantôt velouté, tantôt rauque, en tout cas toujours incandescent. Une autre voix impressionnante que vous allez entendre, c'est celle de Mark Lanegan. C'est un chanteur originaire des régions rurales de l'État de Washington, au nord de la côte ouest des États-Unis. Exactement comme Kurt Cobain, qu'il a d'ailleurs beaucoup côtoyé. Lanegan, c'est un survivant. Il est passé lui aussi par un groupe qui a mêlé punk rock, blues et metal, Screaming Trees. Il est aussi passé, sans faire de mauvais jeu de mots, par pas mal de cures de désintoxication. Il est l'auteur en tout cas d'une œuvre impressionnante, 9 albums solo et aussi quantité de collaborations, notamment avec le groupe Queens of the Stone Age. Certains ont pu le comparer à Jim Morrison, à Geoffrey Lee Pierce, mais aussi à Lou Reed et même à Leonard Cohen. Bon, c'est peut-être beaucoup pour un seul homme, mais ça n'empêche pas d'être très bon. On écoute Mark Lanegan dans Harvest Home, un extrait de son dernier album paru l'année dernière, Phantom Radio.
Alone, happy that I'm made of stone.
swinging from the stars. For the sea will swallow up the mountains, and the sky will throw thunderbolts and sparks straight at you. But I'll come running straight.
Straight to you, c'était Nick Cave avec les Bad Seeds en 1992, un extrait de l'album Henry's Dream. Alors je sais que c'est pas forcément un des albums préférés des admirateurs de Nick Cave, mais je le trouve très attachant. Nick Cave a travaillé à cet album sous la supervision d'un réalisateur artistique de la génération d'avant, hein, David Briggs, un collaborateur de Neil Young à sa grande époque. Et le disque a un son comme ça assez doux, discrètement orchestré, pastoral parfois, et ça me fait beaucoup penser à deux groupes australiens du milieu des années 80 que j'ai adoré en leur temps, que j'adore toujours aussi d'ailleurs, les Go-Betweens et les Triffids. Des groupes qu'on retrouvera après-demain, je peux pas comme ça griller toutes mes cartouches. Et des groupes qui présentaient un mélange d'élan lyrique, d'émerveillement devant la beauté des grands espaces, avec aussi un peu de mélancolie résignée, très proche en tout cas de la sensibilité de ce disque de Nick Cave. On va écouter maintenant une des ballades les plus réussies d'un groupe anglais, très aimé en France, Tinder Sticks. L'influence de Nick Cave, avec qui ils étaient partis en tournée à leur début il y a une vingtaine d'années, est évidente, mais dans la voix du chanteur Stuart Staples, il y a quelque chose de moins enflammé que chez Nick Cave, quelque chose de tendre, de résigné, parfois qui peut faire penser à Bryan Ferry. On écoute Tinder Sticks dans Tiny Tears, c'était en 1995.
You've been lying in bed for a week now, wondering how long it'll take. You haven't spoke or looked at her in all that time. For they were the easiest line you could break. She's been going round your business as usual, always with that melancholy smile that you were too busy looking into your eyes to see the and tears in her eyes, tiny tears make up an ocean, tiny tears make up the sea.
woman you're supposed to care for. Someone you said you'd always be there for. But when that water breaks, you know you're gonna cry, cry. When those tears start rolling, you'll be back. But tiny tears make up an ocean. Tiny tears make up a sea. Let them pour. Pour out the love. Don't let them pour over me. Smaller.
I Need My Girl. C'était le groupe new-yorkais The National dans un extrait de son dernier album paru il y a 2 ans, Trouble Will Find Me. Un groupe particulièrement aimé en France et qui, c'est rare, donne l'impression de s'améliorer au fil des années. Il y a une quinzaine d'années, à leur début, leur style était très marqué par des racines folk et country, comme une de leurs grandes influences, le groupe R.E.M. Le timbre du chanteur Matt Berninger avait aussi des inflexions graves et lugubres, proches de Nick Cave. Et puis, à présent, je trouve que The National a gagné en poids et en autorité. Voilà, on va se quitter avec 2 monuments. Le premier, c'est John Cale dans I Keep a Close Watch. C'est une de ses plus belles ballades, un chef-d'œuvre, surtout dans cette version d'une crudité presque inquiétante qui remonte à 1982. On peut l'entendre dans un de ses albums les plus singuliers, très dur à trouver aujourd'hui, Music for a New Society. En fait, c'est une chanson qu'il avait enregistrée une première fois en 75 dans un album qui s'appelait Helen of Troy. Elle était déjà géniale, mais je sais pas, il devait avoir gardé une frustration. Alors il l'a refaite dans une version plus nue, à l'os, et c'est de fait sublime. Une très belle chanson sur la menace du désamour qui peut parfois planer sur un couple, comme en témoignent ses paroles. Je cite, « Rien de perdu, rien de gagné, pourtant les choses ne sont plus les mêmes entre toi et moi. »
Never win and never lose. There's nothing much to choose between the right and wrong. Nothing lost and nothing gained. Still things aren't quite the same between you and me. I keep a close watch on this heart of mine. I keep a close watch on this heart of mine. I still hear your voice at night when I turn out the light and try to settle down. But there's nothing I can do, 'cause I can't live without you anyway at all. I keep a close watch on this heart of mine. I keep a close watch on this heart of mine. I keep a close watch on this heart of mine.
Very Good Trip, Mishka Assayas.
Young man away.
frame of the drummer degeneration. The sorrows we suffered have never were free.
Decades, c'était Joy Division en 1980, la complainte détachée et déchirante qui refermait l'album posthume Closer, paru deux mois après le suicide du chanteur Ian Curtis. Quand j'ai posé ce disque sur ma platine un jour de canicule en août 80, cette chanson a agi sur le jeune homme que j'étais comme une révélation. Faut dire que j'attendais ce disque comme le messie, une attente que le suicide du chanteur avait rendue comme sacrée. Et puis quand je la entends, tout me revient, mon attente, mon espoir, mon éblouissement, ma peur de pas être à la hauteur de la vie qui m'attendait, enfin l'envol vers l'âge adulte. Voilà. Je voudrais terminer sur une note plus légère. Ça vous fera peut-être sourire parce que pour chanter cet hymne lugubre, Ian Curtis avait été influencé par les conseils de Tony Wilson, le mécène directeur du label Factory, qui lui avait prêté une compilation de chansons de Frank Sinatra. Et oui, on le dit peu souvent.